avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, l'école à la radio. J'espère que vous avez désormais les bons réflexes, se laver les mains bien sûr, aller sonner les enfants, les installer avec du papier, des crayons, des gommes ou des ardoises avec des craies. Aujourd'hui, retour au calcul et aux problèmes de mathématiques, niveau école primaire. Pas besoin d'être équipé de calculettes, c'est dans la tête que ça se passe. Gérard Sansfaute, enseignant en école primaire, est en train d'écrire au tableau les énoncés, bien confiné dans sa maison. Et puis ensuite, pour refroidir les neurones, une histoire racontée à vos enfants. Il faut sauver Eno de la collection Planète J'aime lire, Bayard Afrique, est également disponible sur Internet à l'écrit. Et enfin, la chronique de Didier Akwété qui répond aujourd'hui à une question d'entrepreneur. Comment faire survivre le business au temps du coronavirus? Henri nous a posté ce message du Cameroun. Il est fabricant de meubles en rotin. Il a perdu 90% de son chiffre d'affaires. Cette émission est réalisée en direct chaque jour avec une équipe en confinement et en studio. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Hugo Violas et moi-même. Et bien sûr, on a besoin de vos réactions, de vos questions, de vos suggestions. Dites aussi à vos enfants de nous envoyer des messages pour qu'on puisse aussi améliorer nos programmes et progresser ensemble. Uniquement sur WhatsApp, vous nous contactez pour les messages audio, le téléphone, donc c'est du WhatsApp 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Bonjour Emmanuel, je m'appelle Coquin Ifemi, j'ai 7 ans et je suis en classe de CE2 à l'école Le Berceau des Merveilles à Porto Novo au Bénin. J'aime beaucoup ton émission 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Je te suis chaque matin en faisant dans mon cahier de maison à l'aide de mes parents les exercices proposés par tes invités. Je conseille à tous les enfants du monde entier d'écouter ton émission pour rester en contact avec l'école pendant cette période de confinement due au COVID-19. Continuons à respecter les mesures d'hygiène même après la pandémie.
Merci Coquer, 7 ans, voilà, record battu pour le plus jeune auditeur pour l'instant. Salutations à toute ta famille, j'espère que tu es prêt maintenant à affronter les problèmes de maths ce matin. Un message d'Yvon au Congo qui nous dit mes cadets aiment bien votre émission depuis ce processus d'apprentissage à la maison. Eh bien, moi-même, je suis devenu modérateur et un enseignant pour eux. Voilà. Et puis également un message d'un enseignant.
Bonjour à 7 milliards de voisins, c'est Charles Raoul Diatta, je suis enseignant au Sénégal, je suis chargé d'école. J'ai beaucoup aimé l'exemple de Gérard Sansfaute sur la gueule du crocodile pour montrer le plus gros, le plus grand. Je trouve que c'est un exemple qui peut amuser les enfants tout en leur faisant apprendre. Depuis 2016 que je suis enseignant, et ça me donne des idées dans le futur pour pouvoir mieux faire amuser les enfants tout en leur faisant apprendre, surtout dans les zones les plus reculées du Sénégal où voilà, les enfants n'ont pas accès aux nouvelles technologies.
Bonjour Gérard Sansfaute.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous avez entendu le message de Charles Raoul?
Ah oui, c'est vrai que ça peut paraître amusant. C'est vrai que c'est la gueule du crocodile, c'est un V majuscule qui se penche sur le côté. Et si on met 25 et 17, 25 à gauche et 17 à droite, si on dit 25 est plus grand que 17, eh ben on met la gueule du crocodile tournée vers le 25.
Voilà.
Et si on fait l'inverse, si on met le 17 à gauche et le 25 à droite, ben le crocodile, il change de côté, il change sa gueule de côté et on dit 17 est plus petit que 25.
Alors cette fameuse gueule de crocodile, en fait, c'est un signe mathématique. Le vrai nom du signe mathématique, c'est...
Ah ben, vous allez me le dire.
C'est supérieur c'est ou inférieur, en fait. Hein.
Ah oui, c'est plus ça. Grand que ou est supérieur à... dans les plus petites classes, on dit « et plus grand que », mais après, on dit « et supérieur à ». Voilà.
Allez Gérard Sans Faute, merci d'être en direct avec nous. C'est parti, on démarre.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
Alors, quel est le programme aujourd'hui, Gérard Sans Faute?
Oui, alors, aujourd'hui, nous allons faire, comme l'autre fois, des jeux, du calcul mental, des problèmes. Et comme certains grands m'ont dit que c'était très facile pour eux, vous verrez, vers la fin, il y aura un problème très difficile. Moi, j'appelle ça un problème matathlon.
Ah,
alors,
d'accord.
Parce que c'est des maths et c'est long.
Ouais, c'est vrai que c'est difficile hein, dans une émission de contenter tous les âges, forcément. Alors, on commence pour les plus jeunes parce que c'est vraiment pour eux que l'enjeu est le plus important, savoir lire, écrire, compter dans la vie. Il faut absolument connaître ces savoirs fondamentaux. On commence avec un jeu de cailloux. Ça, vous aimez bien les jeux de cailloux, Gérard?
Ah ben,
Ça permet vraiment de comprendre les notions de base, finalement.
Oui, bon, on pourrait le faire avec des bananes. Hein.
Oui,
si
oui, on est d'accord.
Je le fais avec les
non,
bananes.
Non, mais les cailloux, c'est
non,
bien, ça tient dans la main. Ça tient dans la main.
Voilà. Alors, dans ce jeu, qui est plutôt pour les plus jeunes, mais les plus grands, écoute, on va apprendre à faire un partage équitable. Donc, je vais lire l'énoncé. Combien de cailloux auront-ils chacun? Parce que sur ma table, il y a 6 cailloux. Je donne la moitié des cailloux à Emmanuel et l'autre moitié à Hugo. Mmh. Alors, je vais répéter. Combien de cailloux auront-ils chacun? Sur ma table, il y a 6 cailloux. Je donne la moitié des cailloux à Emmanuel et l'autre moitié à Hugo. Alors, on va le faire ensemble. Alors, pour faire un partage équitable, moi, je prends un caillou et je le donne à Emmanuel. Je prends un autre caillou et je le donne à Hugo. Pour l'instant, c'est équitable.
Mmh. Ben ça, les enfants, voilà. Ils savent hein, quand ils distribuent des jeux, 1-1-1-1-1 à tout le monde. Donc ça, ils savent distribuer de cette manière-là.
Voilà. Mais alors, là, moi, j'ai encore des cailloux. Alors, je continue la distribution. Alors, je donne encore un caillou à Emmanuel et je donne un autre caillou à Hugo.
Bon, moi, j'en ai deux. Hein. Hugo, c'est pareil pour toi. Ouais.
Ah ben, c'est équitable pour l'instant. Mais moi, j'en ai encore. Alors, je vais continuer. J'en donne encore un à Emmanuel et un à Hugo. Et là, moi, j'en ai plus à distribuer. Alors, vous en avez combien?
Eh bien, nous, on a la même chose, Hugo et moi.
Vous en avez autant. Donc, c'est équitable. Donc, on peut donner la réponse au problème. La question, c'était combien de cailloux auront-ils chacun?
Oui.
Eh bien, on peut écrire ils auront, ben même, ils ont chacun 3 cailloux.
Oui.
Donc ça, on peut l'écrire, mais comme là, on l'a fait avec les plus petits, ils peuvent le dire à l'oral.
Sauf que vous aimeriez qu'on écrive quelque chose d'un peu plus mathématique.
Pour faire quelque chose... Ah ben, les plus grands, ils ont vu que les petits, ils savent faire la distribution, mais les plus grands, ils ont compris que c'était des choses qu'ils font en mathématiques. Ils ont vu que ce qu'on a fait dans ce partage équitable, on a pris 6 divisé par 2 égale 3. Donc on a partagé les 6 entre les deux personnes et chaque personne a eu 3 cailloux. Donc là, les enfants, ils peuvent faire ce jeu quand ils sont tout petits. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est de se partager les cailloux ou ils peuvent se partager autre chose. Mais nous, les plus grands, on sait qu'ils ont déjà fait une division.
Et oui, et eux, ils ont fait une division, sans même s'en rendre compte, exactement.
C'est ça. Et quand on dit à quel moment on fait la division, ben vous voyez là, quand on fait des partages, les tout-petits font déjà des divisions, quand ils se partagent. Donc, et ça les prépare pour après. Mais les plus grands, ils savent que c'est la division. 6 divisé par 2 égale 3.
Gérard, puis, on va passer à un autre niveau de problème. Alors, un petit peu plus difficile, mais il faut qu'on contente tout le monde. C'est un problème de niveau 2. Et il faut qu'on prenne le temps quand même de donner l'énoncé et l'heure tourne. Alors, on vous écoute. C'est une histoire de Salimata qui va faire ses courses.
Ben, oui, et là, on va apprendre à rendre la monnaie et puis à prendre des notes aussi. Parce que vous avez le crayon, vous essayez de noter le plus important. Alors, je lis l'énoncé. Salimata va faire ses courses au magasin du village avec un billet de 50 euros. Elle a dépensé 27 euros. Combien d'euros lui reste-t-il ? Alors j'espère que vous prenez des notes, hein, ce qui vous semble important, je répète. Salimata va faire ses courses au magasin du village avec un billet de 50 euros. Elle a dépensé 27 euros. Combien d'euros lui reste-t-il ? Alors, si vous avez pris des notes, vous allez pouvoir raconter l'histoire du problème.
Oui, ça j'ai remarqué. Vous aimez bien qu'on raconte l'histoire du problème, hein, Gérard ?
Ben, oui, parce qu'il y en a, ils n'écoutent pas, quelquefois. Et c'est au moment où on répète qui se mettent à écouter. Et moi, ça m'arrive souvent d'interroger un élève, il n'écoute pas, et si je dis ce problème, il me dit, ça parle de Salimata. Oui. Et puis, c'est tout ce qu'il a retenu.
Oui. Alors, non, ça parle d'un billet de 50 euros, surtout. Ça parle pour les futurs commerçants.
Voilà, et elle va faire ses courses avec le billet.
Oui.
Et elle dépense combien ?
Elle a dépensé 27 euros, donc déjà, le billet, il est bien entamé. Hein.
Ah bah oui, parce qu'on nous demande combien il lui reste d'euros. Son billet, mais elle a assez, parce que 50 est plus grand que 27.
Voilà, donc, elle a assez pour payer. Voilà. Et alors ensuite, vous attendez qu'on pose une soustraction, les 50 euros qui sont bien entamés à cause des 27 euros de dépenses, de courses.
Il y a aussi une autre façon qu'on peut faire dans sa tête. Ce que vous dites là, c'est bien.
50 moins 27, on peut poser la soustraction. Pour ceux qui savent poser la soustraction, ils vont poser les 50 moins 27, hein, on est d'accord.
Ça sera ça tout à l'heure.
Voilà.
Oui, ça c'est une bonne façon de le faire. Mais pour chercher ce que le marchand lui a rendu, il faut trouver combien il faut ajouter à 27 pour arriver à 50. Alors, le marchand, il lui a rendu de la monnaie et il est parti du 27. Donc vous pouvez, ceux qui ont un crayon, vous écrivez 27 à gauche de la feuille et il va lui rendre la monnaie, vous écrivez 50 à droite de la feuille. Parce qu'on va chercher combien il manque à 27 pour arriver à 50.
Ouais, donc juste avant le 50, on va mettre un égal. Hein, et puis ensuite, il y a une inconnue. C'est ça, 27 plus quelque chose égale 50.
Oui, mais pour aller de 27 à 50, il y en a qui trouvent directement, mais il y en a, ils sont obligés de faire des petits bons. Et ils se disent, pour aller de 27 à 50, je vais déjà m'arrêter à 30.
Eh ben voilà.
Pour aller de 27 à 30... on ajoute 3. Et après, ils vont de 30 à 40, ils ajoutent 10. Et après, ils vont de 40 à 50, ils ajoutent encore 10.
Voilà pourquoi c'est important de travailler avec des dizaines. Hein. Vous nous aviez fait une petite leçon la dernière fois là-dessus, très important. Et donc, si on a le 3 plus le 10 que vous avez mentionné, plus encore le 10, on arrive. On arrive à 23.
On arrive à 23 et on a trouvé qu'il lui reste 23 euros. Alors là, ce qu'on vient de faire, c'est une addition à trous. On dit 27 plus combien égale 50. Mais il y en a qui ont posé la soustraction, comme on fait d'habitude avec la retenue. On met le 5, le 0, en dessous le 2, en dessous du 5, le 7, en dessous du 0, et ils font la soustraction. Ça, c'est une façon.
En tout cas, je sais, moi, Gérard Sans Faute, que vous conseillez beaucoup aux parents de jouer à la marchande, hein, aux commerçants, comme on dit, en fabriquant des billets avec des petits morceaux de papier, et pour s'amuser à rendre la monnaie ou aussi avec des cailloux. Gérard, l'heure tourne, et je sais qu'il y a les grands qui s'impatientent, mais avant, on va quand même refaire un petit problème, toujours, alors cette fois-ci plutôt un problème un peu plus simple, hein, de niveau 1, mais il faut qu'on garde du temps ensuite pour le fameux matathlon, parce que tout le monde va vouloir se creuser la tête. Alors, est-ce qu'on peut faire le problème de niveau 1 qui est un peu plus facile ?
Il est plus facile, mais il y a un piège. Hein.
Ah,
moi, je mets
un piège
quelquefois.
Ah, d'accord. Alors, allez-y.
Alors, écoutez bien le problème qui suit. Alors, c'est Fatou. Je lis l'énoncé.
Oui.
Fatou a 10 cartes avec des photos d'animaux.
Mmh.
Elle en a deux de plus qu'Eric. Combien de cartes a Eric ? Alors, je vais le répéter. Vous prenez des notes, hein, ceux qui ont une feuille. On n'a pas le temps d'écrire tout l'énoncé. Vous écrivez ce qui est important. Fatou a 10 cartes avec des photos d'animaux. Elle en a deux de plus qu'Eric. Combien de cartes a Eric ?
Alors, l'histoire du problème, déjà.
Alors, quelle est...
C'est pas une histoire d'animaux, hein.
Bah, voilà, vous avez bien écouté, bien entendu et bien compris. C'est Fatou et Eric qui ont des cartes. Et dans l'histoire, on sait que Fatou en a 10 et que c'est elle qui en a le plus. Et on dit même quelque chose encore, on va plus loin, on nous dit qu'elle en a 2 de plus qu'Eric. Et si on regarde la question, que nous demande-t-on ? On nous demande le nombre de cartes d'Eric.
Mmh.
Alors là, ceux qui ont une feuille, ils peuvent peut-être chercher rapidement. Ouais.
Mais alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au début, vous avez dit qu'il y avait un piège. Ça, je trouve que c'est stressant.
Ah, bah. Alors,
c'est quoi le piège dans l'histoire ?
Je le dirai. Je peux le
non,
dire.
Non, bah maintenant, parce qu'après, on passe à un problème un petit peu plus compliqué.
Oui, parce que le piège, c'est le mot plus. Parce que moi, j'ai des élèves quelquefois, ils veulent me faire plaisir. Ils disent, mais je vais faire plaisir au maître. Il m'a mis le mot plus. Et pour eux, plus, c'est une addition.
Eh bien oui, donc ils se disent 10 plus 2.
Et voilà,
c'est ça.
Parce qu'ils ont regardé le mot plus, ils n'ont pas réfléchi à l'énoncé.
Et comme quoi, hein, quand on fait des maths, on fait d'abord du français finalement. Parce qu'il faut d'abord comprendre tous les mots et le sens de la phrase du problème.
Ben oui, parce que si Fatou a 2 cartes de plus qu'Eric, ça veut dire aussi qu'Eric a 2 cartes de moins que Fatou. Ça veut dire ça.
Ouais.
Donc, il faut bien comprendre.
Donc,
s'il
a 2 cartes de
moins, regardez.
Voilà. Et alors, si vous aviez dit ça dès le départ, évidemment, les enfants auraient trouvé tout de suite. Hein. Si Eric a 2 cartes de moins que Fatou, qui en a 10, eh ben, il suffit de faire 10 moins 2. Et là, on arrive à 8. Et dès qu'on sait un peu compter facilement, on trouve relativement facilement la réponse. Mais vous aviez un peu compliqué l'énoncé du problème. Gérard, l'heure tourne. Si vous le voulez bien, on passe au matathlon. Pourquoi ? C'est quoi un matathlon ?
Matathlon, c'est des maths et c'est long. À Paris, on fait des petits jeux entre les écoles, une petite compétition, et on fait tous des problèmes très difficiles.
D'accord.
Et on les fait même, ces problèmes, on les fait en 3 jours. C'est long.
Bon alors, on a 5 minutes, nous, pour faire ce matathlon. On va peut-être pas donner la réponse, d'ailleurs. Mais c'est une histoire de mouton. On y va ?
Alors, je vais lire l'énoncé du problème de matathlon et on avancera un petit peu jusqu'où on pourra.
Alors, le problème, il commence par une question.
Alors je fais quelquefois, je mets la question en premier parce que quand on sait ce qu'on doit trouver, on lit l'histoire qui est en dessous un peu autrement. On fait attention tout de suite à ce qui est important parce qu'on connaît la question à l'avance. Quelquefois, c'est bien. Donc là, il y a la question en avance. Alors, je lis. Combien y a-t-il de moutons dans le troupeau maintenant ? Un éleveur possède un troupeau de moutons. Il a 25 béliers et 5 fois plus de brebis. Au cours de l'hiver, chaque brebis a donné naissance à deux agneaux. Et voilà, il se termine là. Alors, je vais le relire encore une fois,
alors là,
en commençant par la question.
Voilà, ce qui serait bien, c'est que les enfants, ils notent au fur et à mesure les informations que vous donnez. Hein. On va reprendre.
Ah, oui.
Donc, il y a l'éleveur qui possède un troupeau de moutons.
C'est ça. Il a, alors, est-ce que j'aurais dû l'énoncer
si,
ou
si.
On note, on va chercher les choses importantes.
Allez-y, oui, oui, allez-y.
Je relis l'énoncé.
Non, on va donner les choses importantes. Parce que dans ce troupeau de moutons, il faut qu'on prenne des notes hein, pour pouvoir faire le problème.
Voilà.
Il a donc 25 béliers. Donc, on a noté les 25 béliers.
Voilà, donc parce que les béliers, c'est les mâles.
Ouais.
Les brebis, les
ouais.
femelles.
Alors, on n'est pas obligé
agneaux,
d'écrire le mot bélier. Hein. On peut mettre une 25 et puis une petite croix ou un petit rond.
On peut mettre
un petit
BE,
voilà.
bélier.
C'est ça.
Voilà.
D'accord.
Alors,
25.
Pour trouver, vous avez déjà compris qu'il va falloir additionner le nombre de béliers, le nombre de brebis et le nombre d'agneaux.
On est bien d'accord.
Et vous m'avez dit que le nombre de béliers, c'était facile à trouver.
Bah oui, vous l'avez donné, 25.
C'est marqué dans l'énoncé.
Voilà.
Mais alors après,
alors les brebis.
Il faut trouver le nombre de brebis.
Oui, 5 fois plus que de béliers, hein, c'est ça. Non.
Voilà.
Oui, c'est ça.
C'est ça. C'est ça. Les brebis, il y en a 5 fois plus que les béliers. Ça veut dire que les brebis, il y a 5 paquets de 25. Donc, comme il y a 5 paquets de 25, on peut écrire 25 plus 25 plus 25 plus 25 plus 25.
Voilà. Et ça, c'est les brebis.
On fait le calcul. Et on trouve le résultat. Mmh. Vous avez remarqué que j'ai écrit combien de fois le 25? Je l'ai écrit 5 fois.
Ouais.
Donc c'est 5 fois 25. C'est aussi une multiplication.
Ouais. Et ensuite, c'est ça, 5 multiplié par 25.
Ouais.
Et il nous reste à trouver le nombre d'agneaux.
Alors, il nous reste à trouver le nombre d'agneaux. Là, on a fait l'opération. Je vous dis tout de suite, il y a des élèves, ils connaissent la table de 25. Ils trouvent 5 fois 25 dans leur tête. Ils disent une fois 25, 25, deux fois 25, 50, et ils continuent jusque 5 fois 25, 125.
Ah oui, d'accord.
Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on révise les tables.
Ouais.
Oui, la table des 25.
Ouais, vous allez jusqu'à la table des 25, effectivement. Ça permet de faire des raccourcis, d'être rapide. Alors, agneaux, Gérard.
Alors, pour les agneaux, comment faire? Parce que là, c'est difficile. On sait que chaque brebis a eu deux agneaux. Donc, si on se dit que chaque brebis a d'abord un agneau, ça fait déjà 125 agneaux.
Mmh.
Et quand chaque brebis a eu son deuxième agneau, ça fait encore 125 agneaux.
Mmh.
Donc ça fait 125 plus
125
pour les agneaux. Et si on fait l'addition 125 plus 125, on peut la poser. Mais il y en a qui arrivent à calculer ça dans leur tête hein, aussi, 125 plus 125. Et si on le calcule dans sa tête, on peut se dire 100 plus 100, ça fait 200. 25 et 25, ça fait 50. Donc ça fait 250. Donc là, on vient de trouver, on a trouvé pour les agneaux. On a trouvé qu'il y a 250 agneaux. Alors si on regarde tout ce qu'on sait, on va peut-être pouvoir répondre à la question. Pour trouver combien il y a de moutons en tout.
Voilà.
Est-ce qu'on sait combien il y a de béliers? Est-ce qu'on sait combien il y a de brebis?
Les brebis, on avait déjà trouvé en faisant la multiplication. On en avait 125. Les béliers, c'est vous qui les avez donnés. On ne s'est pas fatigué. Et les agneaux, vous nous avez aidés à les calculer. Hein, 250. Donc, il n'y a plus qu'à faire une addition.
Tout à fait.
Des béliers, 25, des brebis, 125, et des agneaux, 250.
Et on peut poser l'addition, ou il y en a qui arrivent à calculer dans leur tête, 25 plus 125, ça fait 150. Et après, 150 plus 250, ça fait 400. Il y en a qui arrivent à calculer ça dans leur tête, je suis sûr.
Ouais.
Si on ne sait pas, on la pose.
Dites donc qu'en tout cas, hein, grâce à un problème comme ça, ça va quand même plus vite quand on sait calculer que de recompter tout son troupeau de moutons. Hein, parce qu'avant d'arriver aux 400... c'est quand même bien utile. Un petit message d'un auditeur là, qui vient de poster sur Facebook, Gérard. Merci à toi Gérard pour cette leçon de maths du jour. Cette émission est très importante pour moi et mon enfant. On vous écoute. Paul du Bénin. Gérard, c'est super. Alors, il y a d'autres problèmes qui vont être postés sur Internet, un petit peu plus compliqués pour certains. Vous êtes devenu quand même assez populaire assez vite, hein, Gérard, sans faute, avec vos problèmes de maths. J'ai peur que vous soyez obligé de revenir dans l'émission dans quelques jours.
Ah, mais je suis pas obligé, hein, c'est un plaisir.
Merci à vous, Gérard. Les voisins, vous envoyez tous vos messages à Monsieur Sans Faute au 33 1 84 22 71 71, ça c'est le téléphone, WhatsApp. Merci à vous, à très bientôt, Gérard Sans Faute. Bonne journée à vous.
Bonne journée, à très bientôt.
Allez, c'est bientôt l'heure du compte, ça sera juste après. Zoufri Maracas, chez 7 milliards de voisins, l'école à la radio.
Je venais, tu me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Mais tu es un flic, hein. Christophe, représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, tu me demanderais si je vais bien. Tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Mais tu es un flic. Affolé de bandits, salaud vendu, de représentant de la force publique. Tu étais né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant de temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée du pognon à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs. Les peuples entiers dans la détresse.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, l'école à la radio, on est en direct sur RFI et on est ensemble malgré le confinement de la planète. Tout de suite, une histoire racontée par la voix d'Héloïse Auria.
Je m'appelle Héloïse. Je vais inventer une histoire. Il était une fois...
Il faut sauver Eno. Un roman écrit par Jacqueline David. Jim adore aller dans la brousse regarder les animaux. Un jour, il rapporte chez lui un jeune chimpanzé blessé. Son père lui explique. Des braconniers ont tiré sur ton animal pour vendre sa viande. Mais le singe a réussi à leur échapper. Nous, on va le soigner. Mets-le dans la remise. Tous les jours, Jim apporte à manger au chimpanzé. Il l'a appelé Eno. Au début, Eno a peur de lui. Il se cache dans le fond de la remise. Et puis, peu à peu, il devient moins craintif. La main tendue, il vient réclamer son repas. Jim l'accueille en claironnant « Monsieur est servi !» Mais le singe reste à distance. Plusieurs semaines passent. Maintenant, le chimpanzé peut sortir dans la cour, attaché à une corde. Assis sur une chaise, Jim aime lui parler. Il lui raconte l'école, ses copains, Ima, Désiré et Ayao. Surtout Ima. Jim l'aime beaucoup. Eno s'approche et l'écoute avec attention. Justement, les trois amis leur rendent visite ce soir. Jim est fier de présenter son protégé. Très vite, le garçon déchante. Ses copains n'arrêtent pas d'embêter Eno. Ayao a saisi un bâton qu'il pousse dans les côtes de l'animal.
« Allez, saute ! Tu es un acrobate, non ? »
crie-t-il. Le poil hérissé, Eno bondit au rythme du bâton. Brusquement, Jim intervient. «
Arrêtez ! Vous lui faites peur !»
Désiré proteste.
« Mais non, c'est trop rigolo, allez ! Ayao, fais sauter Eno !»
Jim éclate.
« Ce n'est pas un jouet ! Laissez-le tranquille, rentrez chez vous !»
Emma fait signe à ses copains.
« Venez, on le laisse avec son animal pouilleux !»
Sans un regard, tous trois quittent la cour. Soulagé, Eno vient se coller contre les jambes de Jim. Le lendemain, le garçon se retrouve seul à l'école. Désiré et Ayao font semblant de ne pas le voir. Quant à Emma, elle lui tourne le dos en faisant Le soir, Jim apporte sa gamelle à Eno, puis il s'assoit sur la chaise, muet. Déconcerté par le silence, le chimpanzé bondit autour de lui en poussant des cris. Comme Jim ne réagit pas, le singe saute sur ses genoux. Ses yeux marrons l'interrogent. « Qu'est-ce qui se passe ?» Jim murmure. « Les copains ne m'aiment plus à cause de toi. » Eno hoche la tête et Jim éclate de rire. Alors le garçon se met à raconter. Et sa tristesse s'envole avec ses paroles. Le vendredi après l'école, Emma interpelle Jim.
« J'ai quelque chose d'important à te dire. »
Jim s'approche, étonné.
« J'ai entendu deux jeunes qui parlaient de ton singe. D'après eux, il vaut cher. Ils veulent le voler. »«
Tu es sûre, Emma ?»«
Certaine. Même qu'ils disaient « cette nuit ». Il faut faire vite. »
Jim articule. « Mon père pense qu'Eno doit retourner dans la forêt. Je vais l'emmener cette nuit. » Puis, les larmes aux yeux, il poursuit. « Moi, je voudrais le garder. »
Ému par son chagrin, Emma propose. « Je peux aller avec toi si tu veux. »«
Je croyais que tu m'en voulais, » bredouille Jim.
Emma hausse les épaules. « Je ne peux pas laisser voler ton singe. »« Allez, à ce soir, » dit-elle en s'en allant.
À la nuit tombée, en catimini, Emma et Jim conduisent Eno dans la forêt. Jim dénoue la corde du chimpanzé qui, tout heureux de retrouver sa liberté, s'enfonce sous les arbres. Soudain, deux ombres s'abattent sur les enfants. Ce sont les jeunes. Ils ont dû les voir au village et ils les ont suivis. L'un bloque Emma, l'autre saisit le poignet de Jim et le tord.
« Où est ton singe ? »
crie-t-il. Malgré la douleur, Jim reste muet.
« Tu vas l'appeler ou je te casse le bras !»
Des clameurs furieuses l'interrompent. Le poil gonflé, Eno surgit du feuillage. D'un geste fulgurant, il balance un morceau de bois sur le jeune qui s'écroule. Le singe s'apprête à fondre sur le second, toute canine dehors. Mais celui-ci s'enfuit. L'autre se relève et s'éloigne en titubant. En signe de victoire, le chimpanzé tape des pieds sur le sol. Emma vient le féliciter.
« Toi, t'es courageux !»
Le singe saute dans ses bras et manque de la faire tomber.
« Hé, pas de familiarité !» rigole-t-elle.
Jim éclate de rire. Mais aussitôt, son visage devient grave. « Il faut que tu partes retrouver ta famille, Eno. » Ému, l'enfant se penche sur son compagnon. Celui-ci se redresse et met ses mains sur les épaules de Jim. « Au revoir, Eno, mon copain. » Une dernière fois, le singe tourne la tête vers son ami, puis il s'enfonce par petits bonds dans la forêt. Le cœur serré, le garçon le suit des yeux. Gentiment, Emma secoue Jim.
« Allez, on rentre ! Je ne veux pas que nos parents s'aperçoivent qu'on a disparu. »
Et elle ajoute « Ne sois pas triste. Ton père connaît la forêt. Je suis sûre qu'il t'aidera à revoir Eno un jour. »
Jim sourit. Moi aussi, j'en suis sûre. Tu viendras avec nous ? Bien sûr. Eno, c'est mon copain aussi, non ? Puis sans transition, elle part en courant. Le premier arrivé au village a gagné. Le garçon s'élance à sa suite. Ima, t'es qu'une tricheuse, attends-moi ! Jim n'éprouve plus de chagrin. Au contraire, Ima et moi, on a réussi, pense-t-il. Ensemble, on a sauvé Eno.
Il faut sauver Eno, c'est une histoire écrite par Jacqueline David, publiée dans la collection Planète J'aime lire Bayard Afrique, racontée par Héloïse Auria, comédienne, et mise en onde par Romain Dubrac.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Allez, après le compte, retour sur Terre, 7 milliards de voisins, l'école à la radio. On donne régulièrement la parole à des entrepreneurs d'habitude dans cette émission. Eh bien, ça continue plus que jamais parce que c'est vrai que pour les petites et moyennes entreprises en Afrique, la situation est compliquée. Bonjour Didier Akouété.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes avec nous deux fois par semaine chez 7 milliards de voisins. Vous êtes le président d'Afrique Search, une société de conseil en ressources humaines. Et c'est vrai que d'habitude, avec vous Didier, on réfléchit d'habitude plutôt à lancer des entreprises, à conseiller de jeunes entrepreneurs, des jeunes qui veulent lancer des startups ou des nouveaux business. En tout cas, on organise la croissance avec vous. Et en ce moment, ça va plutôt, vous allez plutôt essayer de répondre à des entrepreneurs un peu désemparés, pour ne pas dire désespérés. Je vous propose d'écouter le message d'Henri Simo qui a posté sur WhatsApp du Cameroun et puis vous allez nous dire un peu comment vous analysez sa situation.
Bonjour Didier, bonjour à Emmanuel aussi. Je suis Henri Simo depuis le Cameroun. Je suis le promoteur de l'entreprise Espace Rotin. C'est une entreprise qui travaille dans la production de meubles personnalisés à base de rotin. Je suis déjà passé dans l'émission Legipac dernièrement. Alors, depuis l'avènement de cette crise qu'est le Covid-19, nous, les petites entreprises, on a eu vraiment un coup de massue sur la tête parce que nous avons perdu plus de 90% de nos activités en un temps trois mouvements. Nous avons perdu 90% de nos clients. Même les travaux qu'on avait en cours, on a dû cesser de travailler parce que les clients n'étaient plus trop motivés pour les retirer. Donc, par conséquent, nous avons eu des fournisseurs qui aussi ont disparu. Pas disparu, bon, ils ont dû modérer leur production, leurs approvisionnements parce que la route, les taxis, les voitures de transport ont régressé parce qu'on ne permet plus d'aller plus loin avec les marchandises. Du coup, on est tombé bas, c'est-à-dire qu'on est en cessation des services. On a dû mettre quelques-uns en congé technique parce qu'on ne pourrait plus supporter la charge. Maintenant, nous avons eu l'idée même de mettre plus l'accent sur la vente par téléphone dans tous nos médias sociaux, mais cela tarde à se concrétiser. Alors, la question que je devais poser au coach Didier, c'est comment transformer cette situation en notre avantage, c'est-à-dire que la situation de crise. Et la deuxième question, c'est comment garder le cap en période de crise? Je pense que ça m'aiderait à voir plus clair.
Merci Henri pour le message posté du Cameroun. Bien sûr, vous aussi, hein, les voisins, les voisines, si vous êtes entrepreneurs, vous pouvez poster vos messages. Un message synthétique qui décrit bien votre situation, ce que vous faites. Et puis vos questions au coach Didier Akouété au 33 1 84 22 71 71. Didier Akouété, vous êtes en direct d'Abidjan. Évidemment, vous n'êtes pas magicien hein, dans cette situation.
C'est vrai, vous savez, c'est le cas de Henri, c'est le cas de 80% d'entrepreneurs et même des grandes entreprises hein, qu'on voit dans tous les pays du monde actuellement. Peut-être en réponse à Henri, dans ces contextes-là, je crois qu'il faut garder à l'esprit trois choses. Évidemment, le consommateur ne pense pas aller acheter un meuble de rotin ou un super salon en période de crise. Il pense à se protéger, se soigner, se nourrir, bref, des choses de base. Et donc, première chose, Henri doit penser à se rendre utile, parce que c'est le contexte où on se rend utile pour retrouver ses clients. Se rendre utile, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans ce contexte, Henri doit penser à lui-même survivre et à aider ses clients à passer la crise en leur proposant des services qui n'ont peut-être rien à voir avec son business. Ça veut dire quoi? Thierry demain peut trouver des masques pas chers, voir des tailleurs qui produisent des masques, qui peut proposer à ses clients, trouver des endroits où on vend des produits alimentaires pas chers parce qu'il y a un contexte d'inflation incroyable. Henri commence à se rendre utile et ses clients vont se dire « Ah tiens, Henri c'est un type vraiment sympa, il n'essaie pas simplement de nous vendre des meubles en retard. » Donc un, se rendre utile. De la même manière, Henri peut prendre l'initiative pour aider d'autres petits commerçants, d'autres petits entrepreneurs comme lui, en disant à ses clients « Aidez-nous à passer la crise. » Par exemple, et là je viens à une approche plus marketing, donc deuxième axe, le marketing. Henri peut dire à ses clients « Les meubles que vous m'avez achetés il y a quelque temps, je vais passer vous les réparer gratuitement dans cette période où c'est vrai, personne n'a de l'argent. » Donc en gros, Henri reprend contact avec ses clients en leur proposant une gratuité de service. Donc Henri est le type sympa qui reprend contact avec ses clients, qui va les voir, qui dit « Je vais venir faire la maintenance gratuitement, réparer vos sièges gratuitement. » Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'Henri fait? Henri va proposer des nouveaux meubles, des nouveaux services marchands, parce qu'il aura pu reprendre attache avec le client. Et de la même manière, marketing, Henri peut tout à fait leur dire, vous savez, quand la crise va passer, si vous commandez maintenant, vous avez 30% de remise ou 50% de remise sur vos prochains meubles quand la crise sera passée. Donnez un petit acompte juste pour garantir votre produit, mais le meuble dont vous avez toujours rêvé, la crise passera, vous inquiétez pas, je vous le ferai à 50% ou 30% de remise. Donc, vous faites bénéficier au client d'un avantage prix ou qualité qui permet de récupérer un peu de trésorerie pendant que la crise ne passe. Rendez-vous utile, rapprochez-vous des clients et une approche marketing qui vous permette de récupérer un peu de business pour la crise et après la crise. Donc ça, c'est des petits conseils peut-être qu'Henri peut appliquer pour voir si ça peut lui permettre de retrouver ses clients, parce qu'il faut qu'il retrouve ses clients tout d'abord.
Oui. Alors ça, c'était pour la première question. Et la question, comment garder le cap? Finalement, vous y avez quand même en partie répondu, Didier, hein?
En fait, il faut qu'il aille au-delà. Je me souviens, Henri, à l'époque, faisait des meubles personnalisés. Je disais, oui, mais attendez, vous ne pouvez pas à chaque fois faire des meubles personnalisés à la main, individuellement. Vous devez donc passer à une étape 2, passer à une petite manufacture. Comment trouver un petit logiciel qui dessine les meubles pour vos clients et même leur permet de choisir. Enfin, ça, c'est un petit logiciel qui n'est pas cher. Donc, pendant la période de crise, c'est là où justement on réfléchit à redéfinir sa gamme, ses produits, sa manière de travailler, ses fournisseurs, trouver des composants moins chers, etc. Donc, réinventer son business model, comme on en a parlé là, en début de semaine, pour préparer la crise. Donc, c'est le moment de réfléchir en fait à tous ces éléments pour l'après-crise. Et puis aussi, Henri a peut-être perdu certains de ses employés. Et Henri doit réfléchir à comment... Ouais.
Il a parlé de congés techniques. Hein. Il faudrait plutôt parler de chômage technique. Mais effectivement, forcément, ça va être, il va falloir garder un lien avec ses employés quand le business va redémarrer. Parce qu'il y a un certain savoir-faire aussi qu'il ne faut pas perdre.
Bien sûr, et Henri doit montrer de l'empathie vis-à-vis de ses employés, c'est-à-dire comment vous traversez la crise vous-même, essayons de trouver des solutions ensemble au niveau alimentaire, au niveau médical, etc. Donc, Henri devient quelqu'un qui participe à la vie de la communauté, aussi bien vis-à-vis de ses employés que vis-à-vis de ses clients, parce que c'est le moyen qui lui permet de garder la main et préparer l'après-crise.
Moi, ce que je retiens, là, Didier, dans ce que vous venez de dire, c'est que finalement, les gens ont du temps en ce moment, mais parfois, ce temps est finalement mobilisé par une forme de déprime, hein, de lamentation, qui est tout à fait normale. Et là, vous nous avez proposé, finalement, 3 pistes pour utiliser le temps de manière efficace, ce temps qui semble extensible pour certains, et ça fait partie du désespoir, c'est se rendre utile pour les autres, passer du temps avec ses anciens clients, avec des réparations, etc., puisqu'il a du temps pour venir réparer les meubles qu'il a vendus, et puis réfléchir, passer du temps pour trouver des logiciels, etc., de manière à industrialiser son process de fabrication quand le business va redémarrer. Voilà, c'est vraiment trois très belles pistes. Et puis dedans, il y a bien sûr garder le contact avec les clients et proposer des futures commandes. Mais plus largement, pour toutes ces petites entreprises, Didier, comment l'État peut aider ces petits entrepreneurs qui sont semi-formels, semi-informels et qui sont les plus gros pourvoyeurs d'emplois sur le continent africain et pas seulement d'ailleurs?
Effectivement, hein, c'est 80 à 90% du secteur privé, ces jeunes entrepreneurs, qui souvent sont dans l'informel. Celui qui fait le meuble sous un arbre, il a disparu. Celle qui vendait les beignets au bord de la route, elle a disparu. Celui qui vendait les mangues a disparu. Le petit coiffeur a peut-être fermé. Donc, c'est le moment de renouer contact avec cette population d'acteurs informels qui font vivre l'économie africaine. Ça veut dire quoi, en gros? C'est lancer, par exemple, un plan massif d'identification de ces acteurs de l'informel. C'est très simple, on peut ouvrir un guichet ou plusieurs guichets dans le pays, dire ceux qui avaient des activités qui n'arrivent plus à en vivre, venez vous enregistrer, nous allons vous donner un petit billet, peut-être 50 000 francs, peut-être 100 000 francs, bref, quelque chose qui permet de passer la crise. En contrepartie, ces acteurs s'enregistrent, on arrive à les identifier. Mmh. Mais la promesse de l'État, c'est qu'on ne viendra pas vous embêter avec des taxes. Mmh. On vous laisse tranquille. Alors, c'est simplement pour savoir où vous êtes, comment on va vous aider aussi après la crise, parce qu'après la crise, l'État va peut-être passer des commandes, vous allez peut-être en bénéficier, l'État va lancer des formations, vous allez peut-être en bénéficier. Mmh. Mais il faut d'abord les répertorier, les identifier, et ça, c'est un vrai challenge. Mmh. Et c'est le moment de la crise qui permet cela, parce que les gens ont besoin de ces subsides pour vivre.
Ouais.
Si vous lancez un appel en disant « nous allons donner 3 à 4 mois de chiffre d'affaires d'activité à tous ces jeunes entrepreneurs, mais en contrepartie, venez vous enregistrer, qu'on sache où vous êtes », ils vont venir en masse.